cette région encore incomplète et qui n'eut ni une langue ni une brillante destinée était composée des restes du régiment du royal Liégeois qu'on avait reformé, pour quelques fredins, et des jeunes gens de bonne volonté qui, pour dire que c'était fait soldat, tout ce monde s'ennuyait, ne voulait rien apprendre et demandait à se battre pour s'amuser, mais l'ajoutant M. Ross, dont on départ et je n'ai pas retrouvé depuis l'homme qui porta si loin enthousiasme pour le catéchisme militaire et pour toutes les niaiseries de détail. Il savait tout juste assez de français pour commander sa troupe, composée en majeure partie de Flamands et d'Alsaciens. Après 25 années de service, il était arrivé au grade d'adjutant-major. Et cependant, M. Ross n'était pas content, depuis qu'il n'avait plus les coups de bâton pour auxiliaires. Il se plaignait de fatigue du commandement où j'étais devenu son ami parce qu'il m'avait vu exact, attentif et grave aux manœuvres. Mon ami, me disait-il, la guerre est toujours funeste aux armées. Plus de discipline, plus d'ordre, plus de subordination, malheur au régiment qui quitte la garnison pour les champs de bataille. Ah, si vous aviez vu les camps de Verberie, les camps de Santé, Thomas, quel beau spectacle! Les tentes bien alignées, les troupes sous les armes à 4 heures du matin, les habits propres, les manœuvres admirables, et le soir, personne ne manquant à l'appel, et tout le monde sous le main maintenant, je commande à des guenilles. Que faire de tous ces jeunes gens qu'on ne peut m'originer aussi calcaire, tout cela ira à la diable. Mais je vais demander ma retraite. Le brave homme, effectivement, se retirera l'année suivante. Et j'espère qu'il est mort assez tard, peu étonné, et se réjouir à nos triomphes. Les premiers temps me feront bien pénibles. J'avais vécu dans une douce essence à Paris, au milieu de ma famille dont j'étais chérie, dans la bonne société, qui était aimable pour moi. Maintenant, il fallait vivre avec des soldats. Les sergents voulaient bien me protéger, les officiers ne me regardaient pas. Les dégoûts commençaient à s'emparer de moi. Heureusement, j'y fis à temps des profondes réflexions sur ma position. Est-il me parut possible d'en sortir en me livrant avec ardeur au devoir qu'elle m'imposait? Je passais mes journées au café ou à lire des romans. J'abandonnais cette vie oisive. J'étudiais l'ordonnance militaire. Je suivis avec exactitude tous les détails de l'instruction. Et au bord de 6 semaines, je fus nommé caporal. Ma position devint meilleure. Je visais en cœur à tout. Mais du moins, je commandais à quelques-uns. Monsieur Didier nous arriva, les troupes furent bientôt complètement habillées, et comme cet officier sortait du régiment d'Alsace, il nous soumit à une discipline si sévère, si exacte qu'en moins de 2 mois, la Légion peut rivaliser avec les plus beaux corps de l'armée du Nord. Ces devoirs prescrits pour chaque moment, loin de me décourager, mais les furent aimés. Les manœuvres de bataillon me donneront le désir de prendre les éléments de la guerre. Et j'ai lu avec avidité quelques livres nouveaux qui venaient de paraître. La guerre de poste, de Sazac, les fortifications de campagne, par de Belair. Mon colonel, qui avait pris de l'attachement pour moi, me donna des leçons de stratégie et de castrometation. Il m'apprit à lire les cartes militaires. Je fus bientôt élevé au grade de sergent et mes espérances ne connaissaient plus de bornes lorsque le général Custine appela le colonel Dillier à l'armée du Rhin pour remplacer le général Houchard, son premier aide-de-camp, qui était appelé au commandement de l'armée de la Moselle. Le départ de M. Didier fut un coup de foudre pour moi, mais il m'avait promis, ainsi qu'à mes camarades, de nous appeler à l'armée du Rhin. Il nous tint parole Et peu de temps après, ils sont arrivés à Mayence, nous reçûmes des brevets des sous-lieutenants dans la 93e régiment d'infanterie des lignes. Je reçus pour que l'ordre de me rendre à l'armée du Rhin, à l'époque où furent annoncés le jugement et la mort du roi. L'impression fut profonde dans une ville où cependant les Jacobins dominaient. La douleur fération ajouteront la consternation, la terreur qui est leur menace et leur conduite inspirant déjà. Il faut consulter avant tout pour avoir l'explication de ce terrible jugement. Une brochure de Monsieur de Chateaubriand publiée au commencement de 1815 qu'elle explique avec beaucoup de sagacité les mots secrets qui détermineront tant de députés à voter la mort de Louis XVI. La municipalité de Paris dominait avec toute l'énergie d'une tyrannie sauvage et désespérée. Elle voulait à tout prix la mort du roi et menaçait hautement de massacrer toute la famille royale qu'elle tenait seule en sa puissance. Beaucoup de députés croyaient qu'il n'y avait pas d'autre moyen de sauver l'héritier du trône et sa famille qui d'offrir l'infortuné chef en holocauste à la fureur populaire. C'était une erreur, mais elle était excusable. Au reste, s'il est vrai que Louis XVI ait souscrit le traité de Pilnitz, s'il est vrai qu'il ait engagé tous les privilégiés à quitter la France et à s'enrôler sous les bannières de l'étranger. S'il est vrai qu'il ait été d'accord avec ses frères et leurs partisans, pour venir les délivrer par une guerre qui livrait son pays à toutes les horreurs d'une évasion qu'il eût juré de maintenir et d'exécuter la Constitution. Et je n'hésite pas à dire qu'il fut coupable. Il ne pouvait plus régner. Mais la Convention n'avait pas le droit de le juger. Et en le faisant mourir, elle fit une faute bien politique. Comment n'évite-t-elle pas qu'en autant la vie de Louis XVI s'était donné la couronne à Louis XVIII qu'il fallait conserver le roi prisonnier pour ne pas donner à l'ennemi qui sera trop fameux pour tant de faiblesse et par des vues si bornées, et si fausse devait être soigneusement protégée. Enfin, quand Louis obtint la vie en Louis donné tôt ou tard pour successeur, son frère établi au milieu de l'ennemi, dont les qualités d'esprit étaient supérieures à celles du roi, et dont le caractère déjà si connu devait avoir une influence si déplorable sur les destinées de la France. Mais la Convention, pressée par les événements, exaltée par le ressentiment et par le journée des 10 août, composée en partie d'âmes sans expérience et frappée de la funeste manie de la célébrité, voulut imprimer aux esprits une sorte de terreur mêlée d'admiration par une grande injustice qu'elle appela un grand acte de justice nationale. Elle réussit, mais la haine de l'Europe contre elle fondit en larmes. C'est la France furieuse puissante et tout la rage de son gouvernement écrasa les armées de l'Europe.